VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Nous sommes le vendredi 9 mars 2018. Bienvenue sur VOA Afrique. C'est parti pour Le Monde aujourd'hui, édition de 19h30 en temps universel. Jacques Aristide en direct de Washington. À la une ce soir, Saint-Maur dans des combats entre l'armée des rebelles dans l'est de la RDC. Au Burundi, 3 activistes accusés d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, condamnés en leur absence à 10 ans de prison. Élection en Sierra Leone, toujours pas de résultat, mais des partis revendiquent leur avance. Annonce inattendue et spectaculaire, le président américain accepte de rencontrer son homologue nord-coréen. Et un peu plus tard, un tour d'horizon des actualités économiques et sportives dans vos rubriques habituelles. 3 rebelles ougandais musulmans ADF, forces démocratiques alliées, 2 miliciens congolais ont été tués aujourd'hui par l'armée congolaise dans des combats à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les combats se sont déroulés sur 2 axes du territoire de Beni à Mapobu et dans la forêt de Tingbé. La veille, près de Eringeti, l'armée congolaise a détruit un camp de miliciens congolais Mai Mai dans la forêt de Tingbé et a tué 2 miliciens et 3 autres ont été capturés. Fin 2017, l'armée a lancé des opérations militaires ciblant les groupes armés locaux et étrangers qui infestent depuis plus de 2 décennies à l'est de la RDC. Les ADF sont opposés au président ougandais Yoweri Museveni. Ils sont accusés par la RDC et l'ONU d'être responsables de massacres des civils ayant fait plus plusieurs centaines de morts dans la région de Beni depuis octobre 2014. En décembre, les ADF ont été accusés d'avoir tué 14 casques bleus tanzaniens. Le Gabon va retirer ses quelques 450 soldats de la mission de l'ONU en République centrafricaine, la MINUSCA, selon un compte-rendu du Conseil des ministres. Le Gabon a participé à cette force onusienne depuis son lancement en 2014. Lundi, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra est revenu à Libreville à discuter de la coopération bilatérale entre les deux pays, d'après la présidence gabonaise. Depuis son déploiement, la MINUSCA est confrontée à une avalanche d'accusations d'agression sexuelle qui a déjà a entraîné le renvoi de plus de 600 soldats du Congo-Brazzaville l'an dernier. Au Burundi, 10 ans de prison pour 3 activistes de la société civile. Ils sont accusés d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et ont été condamnés en leur absence. Emmanuel Nishirimana, représentant de Parsem, une ONG militant notamment pour la bonne gouvernance, et 2 de ses collaborateurs, Aimé Constant Gatoré et Marius Nizigi-Imana, avaient été arrêtés en juin 2017. Les juges ont annoncé le verdict hier alors qu'ils siégeaient dans une autre affaire et en l'absence des accusés et de leurs avocats. Au Cameroun, un soldat a été tué, 3 élèves blessés lors d'une attaque menée, d'après le gouvernement, par des milices terroristes anglophones à Batibo, dans le nord-ouest du pays, où 2 responsables administratifs avaient été enlevés en février dernier. D'après le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga Anji, des séparatistes ont attaqué mercredi une école, avec pour objectif un manifeste l'enlèvement des élèves de cet établissement scolaire. Au Bénin, la police a dispersé à coups de gaz lacrymogène une manifestation organisée aujourd'hui à l'appel de l'opposition contre le président Patrice Talon, quelques minutes après le début de la marche. Elle a réuni quelques 10 000 personnes à Cotonou, là où nous retrouvons notre correspondante Ginette Fleur à Dandé.
C'était une marche populaire qui, selon les organisateurs, devrait être l'expression de la désapprobation des populations à la répression et la confiscation des libertés, la menace contre le droit de grève, la poursuite de la liquidation des entreprises publiques et le licenciement des travailleurs, le pillage systématique et des ressources, les défalcations arbitraires et illégales, les affres de la faim et de la cherté de la vie, les conséquences des lois scélérates, l'augmentation des frais d'inscription et d'études dans les universités, la suppression des bourses et autres. Mais c'est à coup de gaz lacrymogène que la police a dispersé cette marche contre la gestion du pays. Raison évoquée par les autorités, le non-respect de l'itinéraire autorisé par la préfecture. Les organisateurs reconnaissent la justesse des arguments brandis par les forces de l'ordre et expliquent que des personnes mal intentionnées ont infiltré les rangs des marcheurs. Les marches de protestation deviennent fréquentes, surtout depuis que la menace d'une année blanche pèse sur la rentrée scolaire et académique. Les organisateurs de cette marche comptent revenir à la charge, car pour eux, face à la fin face à la ruine accélérée du Bénin, il faut que le peuple, dans toutes ses composantes, se lève pour arrêter le désastre auquel conduit, selon eux, le pouvoir talent. De Cotonou, Ginette Fleur Adanlé pour VOA Afrique.
Au Nigeria, un couvre-feu à durée indéterminée a été imposé ce vendredi dans l'état de Taraba, dans l'est du pays, où les autorités peinent à enrayer les violences qui se multiplient entre agriculteurs et éleveurs pour l'accès à la terre. Les affrontements entre les groupes ethniques Peul et Mambia ont fait au moins 10 morts à Taraba la semaine dernière. Dans l'état voisin de Benue, 24 personnes ont perdu la vie depuis lundi dernier. Le président nigérian, Muhammadu Buhari, sous le feu des critiques pour sa passivité, a promis que les responsables des violences seraient jugés et punis. Les deux principaux partis, Sierra Leone, se sont déclarés chacun confiants ce vendredi dans une avance significative aux élections dont les premiers résultats partiels se faisaient attendre 48 heures après le vote. De son côté, la mission d'observateurs de l'Union européenne a salué jusqu'à présent un processus électoral transparent, crédible et bien organisé, ainsi qu'une campagne généralement pacifique, mais a déploré une considérable augmentation des intimidations et des actes de violence dans la dernière semaine. Les habitants de ce pays pauvre d'Afrique de l'Ouest, gangrenés par la corruption, se sont déplacés en nombre mercredi dernier pour élire leur nouveau président, vice-président, membre du Parlement et conseiller locaux. Le président kényan Uhuru Kenyatta a parlé de Raila Odinga, son principal opposant, comme d'un frère lors d'une rencontre aujourd'hui entre les deux hommes. Ils se sont engagés à œuvrer à la réconciliation après l'élection présidentielle contestée de l'an dernier. Anastasie Tudiesh.
La rencontre surprise de messieurs Kenyatta et Odinga s'est déroulée quelques heures avant la visite officielle à Nairobi du secrétaire d'État américain Rex Tillerson. L'administration Trump a appelé ces derniers mois les deux protagonistes à se rencontrer pour sortir de la crise politique post-électorale qui secoue le pays. Les deux hommes ont lu un communiqué commun, s'appelant l'un l'autre « mon frère ». Ils ont annoncé un programme destiné à combler les fractures qui parcourent depuis longtemps le Kenya, sans en préciser toutefois le contenu. « Ce pays est plus grand que n'importe quel individu », a déclaré M. Kenyatta. Raila Odinga a répondu « le temps est venu de nous confronter à nos divergences et de les résoudre ».
Le patron de la diplomatie américaine poursuit sa tournée sur le continent africain après l'Éthiopie. Rex Tillerson s'est rendu ce vendredi à Djibouti, une visite d'une journée avant de s'envoler pour le Kenya. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Rex Tillerson a été reçu à son arrivée à Nairobi par son homologue kenyan Monica Juma. Ils ont donné une conférence de presse conjointe. Avant l'étape kenyane, M. Tillerson était à Djibouti où il a été reçu par le président Ismaël Omar Guelleh et Mahmoud Ali Youssouf, son homologue djiboutien. Dans une conférence de presse conjointe, le secrétaire d'État américain a affirmé que la sécurité, la lutte contre le terrorisme et les investissements sont les points forts de sa tournée africaine. La bataille contre Al-Shabaab en Somalie, la Corée du Nord et les intérêts américains en Afrique ont aussi été au centre des échanges. Les présences chinoises et russes sur le continent se sont invitées dans les discussions. Après Nairobi, Rex Tillerson doit se rendre au Nigeria et au Tchad.
Des diplomates occidentaux basés à Harare demandent au nouveau gouvernement zimbabwéen de faire la lumière sur l'enlèvement il y a 3 ans jour pour jour d'un militant des droits de l'homme et figure de l'opposition à l'ex-président Robert Mugabe, Itai Zamara, ancien journaliste devenu chef d'un groupe d'opposants à Robert Mugabe, a été kidnappé le 9 mars 2015 alors qu'il sortait d'un salon de coiffure à Harare. Il n'a pas été revu depuis.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La stratégie d'isolement de la Corée du Nord, établie par l'administration Trump à coup de sanctions économiques, fonctionne. C'est l'avis du vice-président américain Mike Pence au lendemain de l'annonce historique d'un sommet entre le président Donald Trump et Kim Jong-un. D'autres réactions avec Bagassi Koura.
En tournée en Afrique, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a lui-même reconnu que ça a été un peu une surprise. Maintenant, il faut s'accorder sur le timing de leur première rencontre et cela prendra des semaines avant que tout soit réglé, a dit le chef de la diplomatie américaine. L'Union européenne a pour sa part salué un développement positif, tandis que la chancelière allemande Angela Merkel a voulu voir une lueur d'espoir L'Agence internationale de l'énergie atomique a souhaité que cette annonce débouche sur des progrès concrets dans le dossier nucléaire et sur une possible reprise de ses inspections en Corée du Nord. Pékin évoque un signal positif et pour Moscou, un pas dans la bonne direction. Le premier ministre japonais Shinzo Abe a plutôt nuancé, soulignant qu'il n'y avait pas de changement de politique de Tokyo et Washington. Nous continuerons à exercer une pression maximale jusqu'à ce que la Corée du Nord prenne des mesures concrètes vers une dénucléarisation.
Le président philippin a besoin d'un examen psychiatrique. D'après l'ONU, Rodrigo Duterte a récemment fait plusieurs reproches à l'encontre des rapporteurs des Nations Unies, dont l'un a même été accusé de terrorisme. À Genève, ce vendredi, le haut commissaire aux droits de l'homme, Zeid Raad al-Hussein, a déclaré que c'est absolument scandaleux que le président d'un pays puisse menacer de gifler l'un de ses rapporteurs et utiliser un langage des plus ordurier. M. Zeid et d'autres responsables des droits de l'homme à l'ONU critique régulièrement la campagne antidrogue controversée du président Duterte. Et voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. Sans plus tarder, un condensé des nouvelles économiques en Afrique, il est l'heure de la Minute Éco avec Morgane Guiriec.
Le cacao a poursuivi sa hausse pour atteindre son plus haut niveau depuis plus d'un an. 1790 livres sterling la tonne à Londres ce vendredi. La cotation new-yorkaise a atteint hier, jeudi, 2522 $ la tonne. Depuis le début d'année, les prix du cacao ont gagné plus de 30%. Cette hausse a été motivée par l'offre, mais le climat chaud et sec en Afrique de l'Ouest peut perturber la production. Au Sénégal, le président Macky Sall entend promouvoir l'entrepreneuriat et l'emploi des femmes et des jeunes, notamment par un meilleur accès de la femme à la terre. Macky Sall promet une enveloppe de 30 milliards de francs CFA pour un programme qui doit débuter à la fin de ce mois de mars. L'Union européenne se dit prête à prendre des mesures de rétorsion contre les taxes américaines sur l'acier et l'aluminium. Le dialogue avec Washington reste toutefois la voie privilégiée. L'Union européenne a préparé une liste comprenant plusieurs dizaines de produits en acier, ainsi que du maquillage, des vêtements, des aliments ou des véhicules qu'elle pourrait décider de taxer lourdement. Le président Donald Trump a signé jeudi soir des documents imposant des taxes de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celle d'aluminium.
Et maintenant, résumé de l'actualité sportive, nous retrouvons Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Préparation du Sénégal pour la Coupe du Monde 2018.
Aliou Cissé, le sélectionneur, est revenu devant la presse sur le programme de préparation des Lions de la Teranga en vue de cette Coupe du Monde en Russie. Ces quatre matchs sont d'ores et déjà programmés face à l'Ouzbékistan le 23 mars, la Bosnie-Herzégovine le 27, le Luxembourg le 31 mai et la Croatie le 8 juin. Aliou Cissé voudrait un cinquième match, idéalement contre une sélection asiatique ou sud-américaine, a-t-il précisé à l'agence de presse sénégalaise.
Des matchs amicaux pour la Centrafrique.
La Centrafrique est fixée sur son programme du mois de mars. Les Fauves du Bazoubangui disputeront deux matchs amicaux, le 24 face à la Gambie et le 27 face au Kenya, ce sera à Marrakech. Le sélectionneur Raoul Savoie doit prochainement annoncer sa liste convoquée pour ces deux rencontres de préparation en vue des éliminatoires de la CAN 2019 qui ont placé, vous le savez, les Fauves dans le groupe H avec la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Rwanda.
Retour au championnat pour le PSG après l'élimination face au Real Madrid en Ligue des Champions.
Après le Real Madrid, double tenant du titre en Ligue des Champions, place à Metz, lanterne rouge de la Ligue 1. C'est dans la sinistrose que le Paris Saint-Germain revient au Parc des Princes. Trois joueurs sont incertains, ils étaient absents de l'entraînement hier. Marquinhos, Rabiot et Pastore. Cavani, lui, est suspendu.
Retour gagnant pour Serena Williams.
Après 404 jours d'absence, l'ancienne numéro 1 mondiale a fait son retour sur le circuit WTA hier à Indian Wells. À 36 ans, après 14 mois d'absence et de graves complications médicales à la suite de la naissance de sa fille, Serena Williams a maîtrisé son match sans être mise en danger face à la Kazakh Zarina Diaz, 53e joueuse mondiale. Le score, 7-5-6-3.
Et puis Nicolas, NBA, championnat de basket nord-américain.
Golden State a souffert pour battre San Antonio, 110-107. Quant à Boston, vainqueur à Minnesota, 117-109. L'équipe s'est officiellement qualifiée pour les playoffs. Dans les autres matchs, Oklahoma City a conforté sa 7e place à l'ouest en dominant Phoenix 115-87. Enfin, Miami a dominé Philadelphie, un concurrent direct pour les playoffs, 108-99.
Merci Nicolas.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant d'aborder notre tranche magazine dans le monde aujourd'hui. Jacques Aristide, toujours avec vous. Mille merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Cap sur le Mali pour démarrer, une trentaine de présumés djihadistes armés et à moto ont attaqué et incendié mercredi dernier le chantier de construction du barrage du village de Chouala, situé à 12 km de Djéné, dans la région de Mopti. D'énormes dégâts matériels ont été commis alors que l'inauguration du barrage était prévue dans quelques mois. Modibo Dembélé a joint un témoin sur place à Djéné, mais qui a tenu à garder l'anonymat. Nous l'écoutons.
Le mercredi 7 mars 2018, au CI des barrages de Guinée, qu'on appelle le barrage de Chouala, à 12 km de la ville de Guinée, des bandits armés sont venus attaquer des barrages et ils ont brûlé tous les matériels lourds et mélangé aussi les gardiens, soit disant qu'ils vont revenir après. Et une fois trouvés les gardiens là-bas, ils vont les tuer. Donc ça a été vraiment une chose quand même qu'on n'attendait pas, la population de Guinée.
Est-ce que cet acte de vandalisme a été revendiqué?
Bon, jusqu'à présent, ça n'a pas été revendiqué, mais la population, même hier, on a voulu quand même organiser une marche au niveau de la préfecture, la ville, l'État, quand même, on nous a demandé d'arrêter cette marche-là. Ils vont quand même prendre une disposition sur ça. Jusqu'à présent, on n'a rien entendu. Il n'y a même pas de agents de sécurité ici à Djéné. On est en insécurité totale ici. Il n'y a aucun agent ici.
Quel pourrait être l'impact de la perte du barrage de Chouala dans la vie économique de Djéné?
L'impact là, c'est là. Même les jeunes qui travaillent là-bas, ils sont déjà en chômage maintenant. Le barrage la paix nous donne beaucoup de choses au domaine des agricultures, élevage et la pêche. Et merci. On attendait même cette année la campagne agricole là, quand même, le barrage là, doit être terminé au niveau de 95%. Mais nous passons quand même cette année quand même dîner, nous devons dire alhamdoulilah. Mais avec cette action-là, nous sommes très choqués. On ne sait même pas comment quoi faire encore même.
Et comment la population a réagi à cet acte aussi?
La population même, ils sont tous mécontents. On a même organisé une marche pour ça même hier. Mais vu l'état, on n'a pas pu le faire. Même la célébration de la journée des femmes n'a pas été comme l'année passée. Donc tout le monde est calme, la ville est calme, tout le monde a eu peur. Nous pensons même que, parce qu'à 12 km de Guinée, c'est comme ils sont déjà à Guinée. On ne sait pas s'ils vont rentrer n'importe quelle heure, n'importe quel moment.
Un témoin d'une récente attaque djihadiste à Guinée, au Mali.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Gao, au Mali, sur 92.9 FM.
Les partenaires commerciaux des Américains critiquent les tarifs proposés par l'administration Trump sur les importations d'acier et d'aluminium aux États-Unis. Des analystes estiment que la situation pourrait conduire à une nouvelle guerre commerciale. Le point avec Nathalie Barge.
Durant sa campagne pour la présidence, Donald Trump avait promis de protéger les industries américaines qui, selon lui, ont été décimées par des importations étrangères bon marché. Alors que l'administration se prépare à donner suite à cette promesse, les partenaires commerciaux des États-Unis jurent des représailles. Les exportations chinoises d'aluminium ont augmenté de plus d'un quart au cours des deux premiers mois de l'année, dont 14% aux États-Unis. Le ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, a mis en garde contre de nouveaux tarifs.
Cela ne fera qu'enliser les deux parties et la Chine va certainement apporter une réponse justifiée et nécessaire.
La commissaire européenne au commerce, Cecilia Malmström, a prévenu que l'Europe envisage également des contre-mesures visant les exportations américaines.
Les produits en acier, il y a des produits industriels et il y a des produits agricoles et certains types de bourbons sont en effet sur la liste, ainsi que d'autres produits tels que le beurre d'arachide, les canneberges et le jus d'orange.
Le président affirme que les industries américaines d'acier et d'aluminium sont vitales pour la défense et que des tarifs douaniers sont donc nécessaires pour protéger la sécurité nationale. L'OMC pourrait être confrontée à une décision difficile, estime le professeur Ken Shadlen, économiste à Londres.
Les régulateurs de l'OMC pourraient dire qu'en vertu de l'exemption de la sécurité nationale, les États-Unis peuvent le faire. Et si cela se produit, le système est complètement faussé, partant du principe que vous pouvez faire tout ce que vous voulez au nom de la sécurité nationale.
plusieurs pays en développement ont adhéré à l'OMC en 1994, étant entendu que les droits d'importation aux États-Unis étaient plafonnés par un tarif consolidé, affirme le professeur Shadlen.
Certains pays ont aimé ces accords et d'autres non. Vous avez accepté ce que vous n'auriez jamais dit d'ordinaire pour obtenir une concession particulière. Et l'une des principales concessions était que les tarifs américains seraient consolidés. Alors maintenant, près de 25 ans plus tard, si les États-Unis peuvent tout simplement éliminer ces limites, c'est un problème sérieux.
L'Europe dit qu'elle coordonne les efforts avec d'autres pays du monde pour se préparer aux tarifs américains. Le spectre d'une guerre commerciale est imminent et beaucoup craignent des répercussions économiques globales.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons des effets nocifs de l'alcool sur la santé.
Selon l'OMS, 3,3 millions de personnes meurent chaque année dans le monde des causes liées à la consommation de l'alcool. D'autres victimes développent des troubles mentaux et comportementaux.
Pour en parler, nous recevrons le docteur Richard Mukendi, médecin en service aux cliniques universitaires de Lubumbashi. Il nous expliquera comment l'alcool agit dans l'organisme.
Nous écouterons le témoignage du docteur Mbuyuri Gobert, directeur du programme de lutte contre la toxicomanie en RDC. Nous écouterons aussi le docteur Idrissa Ba, coordonnateur du centre de prise en charge des addictions de Dakar.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Gros plan maintenant sur le changement de ton entre Washington et Pyongyang. Le président américain accepte de participer à un sommet avec le leader nord-coréen. Donald Trump répondait ainsi à une invitation de Kim Jong-un. Cette annonce intervient après deux années de très vives tensions entre les États-Unis et la Corée du Nord, liées au programme nucléaire et balistique nord-coréen. Pour une analyse, Morgane Guerriec s'est entretenue avec Marianne Perron-Loise, chercheur sur les problèmes de sécurité en Asie, à l'IRSEM, c'est l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire en France.
Il est quand même très important que les États-Unis et la Corée du Nord se rencontrent pour enclencher un dialogue et les conditions sans doute de mettre en place un régime de sécurité pour la péninsule coréenne. Il est quand même assez inquiétant d'avoir vu une escalade de tensions sur ces derniers mois avec des menaces de part et d'autre. Donc déjà une proposition de dialogue permet de calmer le jeu et laisse entrevoir que peut-être un traité, des assurances de sécurité, quelque chose de concret puisse advenir entre ces deux protagonistes.
Pourquoi un tel changement de ton entre Kim Jong-un et Donald Trump aujourd'hui ?
Il y a, c'est vrai, un tempo stratégique qui est quand même assez rapide. On était resté sur la note d'un sommet intercoréen de voir le leader nord-coréen se rapprocher de son homologue du Sud, commencer un dialogue en vue, à plus ou moins moyen terme, de pouvoir dialoguer avec les États-Unis. Donc là, on a vraiment le sentiment d'une accélération avec un leader nord-coréen qui bouscule un peu l'ordre des choses, qui va un peu vite, mais qui a peut-être envie de mettre l'administration américaine au pied du mur, et en tout cas, de son côté, de se protéger, et en cassant peut-être une dialectique un peu menaçante de la part des États-Unis, puisque à Washington, ces dernières semaines, voire ces derniers mois, on parlait beaucoup d'une frappe préemptive, et sans doute que ça a donné à réfléchir à Pyongyang.
Alors pour le vice-président américain Mike Pence, c'est la preuve que la stratégie d'isolement de la Corée du Nord fonctionne. Est-ce que vous êtes de cet avis ?
Il me semble quand même que les sanctions, jusqu'il y a très peu de temps, avaient du mal à avoir un effet quelconque sur la Corée du Nord. C'est vrai que très récemment, les États-Unis ont renforcé de façon unilatérale. Le Japon l'a fait également. Je pense que ça n'est pas la seule raison. Cette incapacité d'avoir accès à des financements internationaux du fait des sanctions gêne énormément la mise en œuvre du programme de développement économique du jeune leader.
On écoutait l'experte Marianne Perron-Doise de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire en France.
Salut les amis, ici Roger Montou de RM Show sur VO Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel au programme de la bonne musique comme d'hab, comme d'habitude. La question de la semaine, à avoir un ou plusieurs amants. Aïe, ça va chauffer. Cette semaine sur RM Show, envoyez-nous vos réactions par SMS ou WhatsApp. Mon numéro n'a pas du tout changé, c'est au 001 703 350 3731. Contactez-moi aussi sur ma page Facebook Roger Montou, la voix de l'Amérique. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous en live, en direct. Participez, surtout en nous écrivant, nous envoyant vos commentaires. RM Show, c'est chaque soir à 20h de l'Universel. C'est sur les voies Afrique. Peace Africa.
Et voilà, c'est ici que nous allons clore le monde aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par notre ami et collègue, l'inégalable Georges Léonard Sagneux. C'était le grand Sidrac Franklin qui assurait la partie technique, notre ami et collègue également, bien évidemment. Et surtout, merci à vous, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide dans la capitale américaine. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end sur VOA Afrique. Take care.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayigouya Burkina Faso et bien d'autres encore, sans oublier sur Onde Courte. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
L'ambassadeur des États-Unis au Nigeria, Stuart Symington, séjour à 40 ans politique nigérian, et au président de l'Institut international républicain, Daniel Turning, pour lancer une initiative soutenue par l'Agence américaine pour le développement international, l'USAID. Celle-ci vise à aider les partis politiques à adopter des meilleures pratiques de gouvernance et d'améliorer la qualité du discours politique. Mise en œuvre par l'Institut international républicain et l'ONG Search for Common Ground, ce projet d'une durée de 3 ans et doté d'une enveloppe de 5,5 millions de dollars aidera les principaux partis politiques du Nigeria à améliorer leurs réponses aux préoccupations des citoyens. L'objectif est aussi de contribuer à assurer une participation pacifique aux prochaines élections. L'initiative vise à aider les partis prenant part aux prochaines élections à devenir plus représentatifs et aussi à améliorer la supervision des programmes gouvernementaux. Elle doit aussi accroître la fréquence et l'intensité des interactions entre les partis politiques et les citoyens, améliorer la communication entre les responsables des partis, les candidats et les élus à tous les niveaux. L'autre but est de renforcer la participation des groupes marginalisés dans le processus politique et au sein des partis. L'initiative aidera également à répandre le message de la paix et de la non-violence à travers le processus électoral, à détecter les signes avant-coureurs de la violence électorale, à formuler les stratégies pour atténuer les risques potentiels à travers l'évaluation des conflits, de concert avec les partis politiques et les organisations de la société civile. En travaillant avec l'Institut international républicain sur ce projet, nos partis seront plus forts et plus efficaces et répondront mieux aux attentes des Nigérians, a déclaré le président adjoint du Sénat, Ike Ekeremadu. Je puis vous assurer de la coopération de l'Assemblée nationale dans la mise en œuvre de cette noble initiative, a-t-il ajouté. Si vous cherchez à être des leaders, ne parlez non seulement de ce qui ne va pas, mais aussi de ce que vous comptez faire de juste dans le futur, a dit pour sa part l'ambassadeur Symington aux hommes politiques rassemblés. Et ce que vous pouvez faire de plus juste, c'est d'inspirer vos membres à s'unir pour l'avènement d'un Nigeria meilleur, a conclu l'ambassadeur.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.